Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans l'actualité via Africa Press, plusieurs articles du 24 mai. On va essayer d'y voir plus clair sur des dynamiques politiques, économiques, en Afrique et même un peu au-delà.
Oui, bonjour. Au programme, effectivement, pas mal de choses. On a la présidentielle qui se profile au Cameroun avec Cabral Nebi.
Ah oui.
L'élection à la tête de la Banque africaine de développement, la BAD, c'est imminent.
Très important, ça.
Ensuite, on ira voir au Niger, où ça semble un peu tendu avec des sociétés pétrolières chinoises.
D'accord.
Et puis, on terminera avec une nouvelle assez surprenante, l'impact d'une décision américaine sur Harvard qui touche directement les étudiants africains.
Un menu chargé. Bon, l'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, de saisir les enjeux derrière les titres. Alors, allons-y. On commence par le Cameroun, donc?
Oui.
Ça bouge sur la scène politique. Cabral Libi, il est officiellement désigné candidat du PCRN. C'est le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Pour 2025, il avait fait troisième en 2018, c'est bien ça, hein?
C'est exactement ça. L'annonce a eu lieu pendant un congrès près d'Yaoundé. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette désignation, bon, elle est saluée par certaines figures de l'opposition, comme Joshua aussi du SDF, le Social Democratic Front. Mais ça arrive dans un climat quand même assez tendu, au sein même du PCRN, et puis avec une opposition qui reste très très éparpillée.
Oui, c'est un peu le serpent de mer, cette question de l'union de l'opposition. Cette mutualisation, comme dit Hilaire Kamga, c'est toujours le même défi pour espérer peser face au pouvoir en place, non?
Tout à fait. C'est le défi majeur et il perdure. Libi, de son côté, il insiste beaucoup sur le respect des procédures internes de son parti pour sa désignation, hein?
D'accord.
Il rappelle que le bureau politique a examiné les candidatures après un appel public. Bon, c'est un point important pour lui pour asseoir sa légitimité face aux critiques, qu'elles soient internes ou externes.
Compris. Alors, d'une élection nationale à une autre, mais cette fois à l'échelle du continent, la présidence de la Banque africaine de développement, la BAD, poste absolument clé pour l'avenir économique de l'Afrique.
Ah oui, absolument stratégique. Le choix, c'est pour bientôt, le 29 mai à Abidjan. Il y a 5 candidats en lice pour succéder à Akinwumi Adesina. Et le processus de vote, il est pas simple.
Ah bon, comment ça marche?
Il faut une double majorité et c'est ça la clé. D'abord, la majorité des voix des pays africains qui détiennent ensemble 60% du capital.
D'accord.
Et ensuite, il faut aussi la majorité de l'ensemble des 81 pays membres, c'est-à-dire les pays africains et les pays non régionaux, les partenaires extérieurs.
Ah oui, donc il faut convaincre sur les deux tableaux, les Africains et les non-Africains. C'est un sacré exercice d'équilibre. Et j'imagine que les candidats n'ont pas tous la même approche.
Non, pas du tout. Chacun a ses priorités. Le Sénégalais Amadou Ott, lui, met l'accent sur les infrastructures. Le Zambien Samuel Mounzele Maimbo, c'est plutôt l'inclusion économique. Le Mauritanien Sidi Ould Ta, lui, parle beaucoup de mobiliser les capitaux privés. Le Tchadien Abbas Mahamat Toli insiste sur la gouvernance. Et enfin, la Sud-Africaine Badjabulile Swazi Tshabalala, elle met en avant le développement du secteur privé.
Des visions assez variées, donc. Et j'imagine que certains pays, disons plus influents, pourrait essayer de peser en coulisses? Le Nigeria, les États-Unis peut-être?
C'est très probable, oui. Ce sont des acteurs qui ont forcément leur mot à dire, même si ce n'est pas toujours visible. Le poids économique et politique joue, c'est certain.
Alors, en parlant justement d'influence extérieure et de ressources, ça nous amène assez logiquement au Niger. Apparemment, le ton monte sérieusement avec les compagnies pétrolières chinoises là-bas.
Oui, on peut dire que ça chauffe. Le ministre nigérien du pétrole, Sahabi Omaru, a été très clair. Il a ordonné le renvoi des expatriés chinois qui sont là depuis plus de 4 ans.
Carrément le renvoi?
Oui. Il vise spécifiquement la CNPC, la China National Petroleum Corporation. L'accusation, c'est le mépris de la réglementation locale. Et il demande aussi la résiliation de leur contrat. Ça concerne quand même plusieurs dizaines de personnes.
Et ce n'est pas un incident isolé, si j'ai bien compris. Il y a eu d'autres frictions récemment, non?
Exactement. Ce n'est pas nouveau. Déjà en mars, des dirigeants chinois, de la CNPC, mais aussi de Soraz, c'est la société qui gère la raffinerie de Zinder, et de Wapco, l'opérateur de l'oléoduc vers le Bénin, avaient été expulsés.
Ah oui, quand même.
Et en plus de ça, Niamey réclame des arriérés d'impôts, et surtout veut renégocier les contrats pétroliers. Et ça, alors même que la CNPC avait accordé une avance de 400 millions de dollars cette année.
On sent une volonté très très nette de Niamey d'affirmer sa souveraineté sur ses ressources. C'est une tendance forte. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque économique en se froissant avec un partenaire comme la Chine et en perturbant peut-être la production, notamment à Zinder, qui est une raffinerie clé.
C'est tout l'enjeu et c'est un pari risqué, bien sûr. C'est cet équilibre très délicat entre l'affirmation de la souveraineté nationale, qui est souvent très populaire, et puis les réalités économiques immédiates. On voit cette tendance à vouloir renégocier les termes avec les partenaires étrangers dans plusieurs pays africains en ce moment.
D'accord. Et pour notre dernier sujet, on traverse l'Atlantique. Cette nouvelle concernant Harvard. Assez stupéfiante, Washington a révoqué sa certification internationale. Qu'est-ce que ça implique concrètement ?
Et ça veut dire que Harvard, pour l'instant, ne peut plus inscrire de nouveaux étudiants internationaux.
C'est énorme !
Oui. Et pour ceux qui y sont déjà, et ils sont nombreux, environ 600-800, dont beaucoup d'Africains, eh bien c'est la menace d'une expulsion du territoire américain, ou l'obligation de trouver une autre université, un transfert en urgence quoi.
C'est une mesure d'une sévérité incroyable. Quelles sont les raisons officielles que les autorités américaines donnent pour justifier une telle décision?
Alors, officiellement, le DHS cite plusieurs choses. Un refus supposé de Harvard de partager des informations sur certains détenteurs de visas étudiants. Il y a aussi des accusations de violence sur le campus, d'antisémitisme. De supposés liens financiers ou académiques avec le Parti communiste chinois. Il faut dire que ça s'inscrit dans un contexte de tension qui n'est pas nouveau entre certaines administrations américaines et l'université. Bien sûr, nous, on rapporte juste les justifications avancées par les autorités américaines, on ne prend pas parti.
Bien sûr. Et l'impact plus spécifiquement sur les étudiants africains. On sait qu'ils sont nombreux, les Nigériens par exemple, à viser ce type d'université d'élite.
Oui, l'impact est potentiellement très important. Les Nigériens, vous les citez, ils forment une des plus grandes communautés étudiantes africaines aux États-Unis, plus de 20 000 sur l'année 2023-24.
Ah oui.
Et à Harvard même, ils sont très présents. On lit par exemple qu'à la Harvard Business School, un quart des étudiants noirs seraient d'origine nigériane. Donc cette mesure, elle ferme, ou en tout cas elle complique très sérieusement une voie de mobilité, une voie de formation qui est essentielle pour une partie de l'élite africaine.
Et ça pourrait les pousser à regarder ailleurs, Canada, Royaume-Uni.
Ou même sur le continent, exactement. Ça pourrait les pousser à explorer d'autres options. Le Canada, le Royaume-Uni sont des destinations classiques, mais peut-être aussi investir davantage dans les pôles universitaires africains qui montent en puissance. C'est une possibilité.
Bras de fer sur la souveraineté des ressources Niger, et puis les conséquences très concrètes, et assez inattendues, de décisions politiques américaines sur la jeunesse africaine.
Oui, et ce qui relie peut-être un peu tout ça, même si les situations sont très différentes, c'est cette question de fond pour les nations africaines. Comment naviguer? Comment trouver le bon équilibre entre les défis internes, l'affirmation de leur souveraineté, de leurs intérêts, ce qui est tout à fait légitime, et en même temps composer avec les dynamiques internationales, économiques, globales, qui sont souvent complexes, parfois imprévisibles.
Non. Merci beaucoup d'avoir suivi cette discussion.